Bonjour. Alors je voudrais, si ce micro marche, essayer de réfléchir un petit peu avec vous à l'utilité de la lecture et à l'utilité de la littérature. Je pense, si j'ai bien compris, que vous êtes en première ou en terminale, L ou S ou ES. Et donc, tous, vous faites un peu de littérature dans les cours de français, que vous lisez peut-être un peu par ailleurs, pas beaucoup, mais sans doute un petit peu quand même, et que vous vous demandez à quoi ça sert. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne sert à rien. C'est une idée... C'est une idée qu'ont eu beaucoup d'artistes, d'écrivains, de poètes, hein, que l'art ne servait à rien et que si on pensait que ça servait à quelque chose, ce n'était plus de l'art. L'art est inutile. Et c'est ça qui est bien d'une certaine façon, parce que ça veut dire que c'est un luxe. Et dans la vie, il faut qu'il y ait des luxes, un certain nombre de choses inutiles. Est-ce qu'on peut se contenter de cette réponse, de dire que l'art c'est gratuit, que la lecture c'est gratuit, que la littérature c'est gratuit et que ça ne sert à rien? Je dirais que même les écrivains qu'on identifie le plus à cette position de luxe, d'inutilité. Par exemple, un écrivain comme... Je prends un écrivain que probablement aucun d'entre vous n'a vraiment lu, parce que c'est très gros, c'est très long. Proust. Qui a lu une page de Proust parmi eux? Personne. Mais vous avez peut-être entendu son nom, c'est un des écrivains... Marcel, j'entends, oui. C'est un écrivain dit difficile parce qu'il fait de très longues phrases et parce qu'il disait, par exemple, que... Donc c'est une position, justement, de luxe. La vraie vie, ce n'est pas la vie dans le monde, mais c'est un peu comme une religion de la littérature qui nous isole du monde. Et bien pourtant, privé... d'écrire que lorsque on regardait dans la vie les gens qui avaient réussi, on constatait que très souvent c'était ceux qui en plus avaient des lettres. Il disait: la culture désintéressée, ça paraît un passe-temps comique à la plupart des gens, un passe-temps d'oisif. C'est l'oisiveté, la littérature et la lecture. Eh bien, ajoutait-il, ils devraient songer que dans leur métier, c'est ce qui met des hommes hors de pair. Aujourd'hui, on dirait bien sûr des hommes et des femmes, qui ne sont peut-être pas meilleurs, mais devant lesquels on s'incline en disant « il paraît que c'est un grand lettré, un individu tout à fait distingué ». Bien sûr, il se moque. Il y a beaucoup d'ironie dans cela. Mais il me semble qu'on doit quand même considérer qu'il y a une certaine utilité à la lecture et à la littérature, qu'il y a des choses. C'est l'écrivain italien Italo Calvino qui disait ça il y a à peu près 25 ans. Il y a des choses que seule la littérature peut offrir par ses moyens propres. Alors c'est une idée à laquelle il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses que seule la littérature peut nous offrir, auxquelles on ne peut pas accéder par d'autres moyens? Est-ce que vraiment il y a des choses que seule la littérature peut nous faire découvrir dans ce monde? Ou est-ce que c'est une idée complètement démodée, complètement ancienne, complètement... anachronique? Bien sûr, on sait, vous le savez bien, que la place de la littérature, du roman, de la poésie, du théâtre, la place de la lecture d'abord, dans le monde moderne, elle s'est beaucoup rétrécie. Il y a une ou deux générations, quand on parlait de culture, on pensait avant tout à la littérature. On peut dire que la place de la littérature, elle s'est rétrécie à l'école. Vous en faites beaucoup moins que n'en faisaient les générations précédentes. Quand j'ai été au collège, à partir de la sixième, chaque année, on lisait une pièce de Corneille ou de Racine. Andromaque en sixième, et puis ça continuait. Bon, tout ça a très largement disparu. Dans la société elle-même, eh bien, on sait aussi qu'on lit beaucoup moins. On lit beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et peut-être que la lecture le temps de la lecture est beaucoup plus difficile à aménager dans le monde moderne qu'il ne l'était il y a quelques générations. Vous avez beaucoup plus d'autres activités à mener que de lire. On le sait bien, toutes les statistiques le montrent, les gens lisent moins. En particulier les jeunes gens, en particulier vos générations, mais aussi les générations plus âgées qui sont affectées de la même façon. Il est beaucoup plus difficile de lire que dans le passé. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile de lire aujourd'hui que dans le passé? Si je me souviens de mon enfance, mon adolescence, on lisait beaucoup parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et la lecture, elle était d'abord liée à une certaine inactivité, une certaine oisiveté, un certain temps vide. Dans mes souvenirs, j'associe la lecture des romans aux grandes vacances. Les vacances étaient longues, elles duraient 3 mois. Et on avait peu de choses à faire, peu d'activités à faire pendant ces vacances. Et la lecture, c'était encore ce qui pouvait occuper le temps, ce qui était également le meilleur marché comme loisir. Et puis c'était le moment aussi où le livre de poche commençait. Donc on découvrait des choses que les générations précédentes n'avaient pas découvert. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus difficile? Eh bien, parce que dans le monde que vous connaissez, il est beaucoup plus compliqué de trouver de longues plages de temps solitaires qu'exige la lecture. Votre temps est tout le temps entrecoupé par le téléphone portable, par Internet. Vous êtes tout le temps en train de... J'imagine que vous êtes tout le temps en train de naviguer sur Internet. Vous lisez peut-être maintenant des livres sur l'écran. Et quand on lit sur l'écran, on est tout le temps interrompu par autre chose. Il y a des courriers électroniques qui arrivent, il y a des nouvelles qui s'impriment, qui se surimposent. Dans le monde dans lequel vous vivez déjà et dans lequel on entre, il y a tout le temps cette multiplicité d'activités. On fait toujours plusieurs choses à la fois aujourd'hui. Et comme on fait toujours plusieurs choses à la fois, eh bien, l'une des activités qui est le plus sacrifiée, c'est la lecture, parce que la lecture exige la solitude et le temps long, de longues plages de temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez peur de lire. Pourtant, si on pense à cette lecture et aux problèmes que la lecture pose aujourd'hui à toutes les générations, hein, il y a beaucoup plus d'attrait pour les lectures des enfants. Vous avez bénéficié, lorsque vous étiez enfant, de livres qui étaient incomparablement plus agréables, plus beaux, plus excitants que ce que les générations antérieures ont connu. Vous avez eu de beaux livres de littérature pour enfants, avec des beaux dessins, des récits qui avaient été écrits pour les enfants. Et ce qui a beaucoup de mal à se faire, c'est ce passage de la littérature pour les enfants à la littérature pour les adultes, pour ceux qu'on appelle les jeunes adultes. Les jeunes adultes, ce sont ceux qui lisent le moins. Et vous, étant en classe de première ou de terminale, eh bien, vous êtes en gros dans ce moment de transition où beaucoup de jeunes cessent de lire. On peut dire en particulier les garçons, en particulier c'est les garçons qui cessent de lire, alors qu'il y a encore des lectrices avides de gros romans, avides de se perdre dans un roman, qui continuent à être passionnés, mais il y a évidemment beaucoup moins de garçons aujourd'hui. Alors je dis, première raison, c'est parce que la lecture, elle est jugée ennuyeuse, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont plus attrayantes, et aussi parce que, d'une certaine façon, la lecture, c'est quelque chose qui fait peur. Un livre, ça fait plus peur qu'un film ou que la télévision. Il faut se demander aussi pourquoi ça fait plus peur. Parce que quand on entre dans un livre, je crois, quand on entre dans un livre, c'est véritablement toujours entrer dans un autre monde, hein, dans le monde d'un autre. Et il ne faut pas se cacher le fait que entrer dans un livre, c'est difficile. On commence par être perdu. On est toujours perdu lorsqu'on ouvre un livre et que dans les premières pages, on ne sait pas où on est. On a perdu tous ses repères, on ne se reconnaît pas. Pour moi, ça me fait toujours penser, entrer dans un livre nouveau, à arriver dans une ville nouvelle, arriver la nuit sans plan dans une ville inconnue. Et on est perdu pendant un certain nombre de temps, pendant un certain nombre de pages, et puis au bout d'un certain nombre de pages, on commence à avoir des repères. Un livre, c'est un espace dans lequel il faut trouver ses repères, et il y a toujours un long moment à traverser, un moment qui est plus ou moins long à traverser, avant de commencer à se sentir en terrain familier, avant de commencer à se sentir chez soi dans un livre. Et peut-être qu'il y a des livres dans lesquels on ne se sent jamais chez soi. On lit 10 pages, on est perdu, on lit 20 pages, on est perdu, et on continue à être perdu, et finalement, que fait-on ? Eh ben, on referme le livre et on n'ira pas plus loin. Si le livre est facile, eh bien, peut-être qu'au bout de la première page, on aura assez de repères pour pouvoir continuer sans problème, mais il est aussi possible qu'en raison de cela, ce ne soit pas un livre très intéressant. Mais je crois que la difficulté, elle est liée à cela. La peur de se perdre, de ne pas se retrouver, d'être exposé à quelque chose qui est totalement étranger. Une autre des raisons de la difficulté de la littérature aujourd'hui, c'est que elle n'est plus, comment dire, identifiée à la culture en général. pendant longtemps, jusqu'il n'y a pas si longtemps encore, la littérature, c'était l'entrée privilégiée, l'entrée royale dans une culture. Si on voulait comprendre une autre culture, il y avait la langue, et puis il y avait tout le reste des productions culturelles, mais la littérature, c'était l'avenue centrale entre la langue et tout le reste, tout l'art en général et tout l'esprit d'une autre culture. Et la littérature, c'était la voie qu'on utilisait. Mais je dirais que c'est une voie qui est souvent pénalisée aujourd'hui. Elle est souvent pénalisée parce qu'elle est très fortement associée à la culture nationale, à ce qu'on appelle le canon, les grands écrivains. Et c'est particulièrement le cas de la littérature française, parce qu'en France, il y a eu, traditionnellement, depuis l'Ancien Régime, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, une très forte identification entre la littérature et la nation. Depuis que la langue française est définie à la Renaissance, cette identification est très forte. La France, c'est très largement sa littérature. Et c'est très largement sa littérature parce qu'on peut aussi dire que cette littérature, elle est continue, ce qui est assez exceptionnel par rapport à toutes les autres langues. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, c'est une littérature qui n'a pas de trou. Il y a une grande continuité et c'est ce qui fait que la littérature s'est fortement identifiée à la nation, que l'enseignement a été très fortement fondé sur les lettres, sur les grands écrivains, et notamment à partir du XIXe siècle, à partir de la Troisième République, où on a utilisé la littérature pour apprendre notamment la citoyenneté, pour apprendre la morale républicaine. La littérature a servi d'instrument, a servi d'outil pour l'école qui date de la Troisième République, d'où une certaine résistance à la littérature. Il y a une résistance historique à la littérature parce que la littérature a été mise au service des objectifs de l'éducation nationale sous la Troisième République. Et il y a donc un soupçon sur la littérature. On peut soupçonner que la littérature, elle sert à domestiquer, elle sert à apprivoiser, et on peut même soupçonner que la littérature est un obstacle, alors que traditionnellement elle avait été conçue comme une sorte de libération. Est-ce que la littérature, c'est un obstacle ou c'est un chemin pour aller vers une meilleure connaissance, plus de vérité, plus de compréhension du monde et plus de compréhension de soi? Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire cela aujourd'hui. Il faut se méfier de la littérature parce que la littérature, ça trompe. Les livres trompent, sont des pièges. Alors que dans la tradition qui nous venait du XVIIIe siècle, des Lumières, au contraire, la littérature, elle, nous servait à nous libérer de l'aliénation, à nous libérer de l'idéologie. Alors vous voyez, beaucoup de questions se posent sur le rôle de la littérature aujourd'hui. Des questions qui sont liées à la technique, au rythme de notre monde numérique. Nous sommes dans un monde numérique où le temps de la lecture est difficile à trouver. J'imagine que vous tous, vous lisez de plus en plus sur écran et de moins en moins sur papier, et cela transforme le rapport que nous avons au livre, cela transforme le rapport que nous avons à la littérature. J'imagine que, second obstacle, vous pouvez avoir peur des livres pour les raisons que j'ai indiquées. Moi-même, j'ai peur des livres. J'hésite toujours à lire un livre nouveau parce que je sais qu'il y aura un moment d'inquiétude, de trouble. La littérature, les livres nous dérangent. Ils nous dérangent plus qu'un film, parce que devant un film, eh bien, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas l'arrêter. Enfin, évidemment, je peux l'arrêter si je le regarde sur mon ordinateur ou sur un DVD, un lecteur DVD. Mais le rythme du film, j'en dépends. Alors que le rythme du livre, c'est moi qui le commande lorsque je suis devant le livre. Donc il y a cette raison de peur, et puis il y a l'autre raison que j'évoquais, cette méfiance moderne à l'égard de la littérature qui peut être considérée comme une tromperie plutôt qu'un chemin vers plus de vérité. Alors il faut bien se rendre compte qu'on a là un profond renversement des choses et notamment des rapports entre la littérature et la science, parce qu'il faut aussi aborder ce conflit-là ou ce grief-là. Que vaut la littérature par rapport à la science ? Que vaut la voie d'accès que peut donner la littérature à la connaissance par rapport à la connaissance scientifique ? Là aussi, on peut penser les choses un petit peu en termes historiques. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'était la science qui faisait partie de la littérature. Lorsqu'on parlait de ce qu'on appelait les belles lettres à l'âge classique, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on ne parlait pas encore de littérature, mais on parlait de belles lettres. Les belles lettres, elles comprenaient tout ce qui était écrit, y compris le discours scientifique. Les sciences naturelles faisaient partie des belles lettres jusqu'au XVIIIe siècle. Donc la notion dominante qui englobait tous les discours, c'était celle de belles lettres. Le processus qui a eu lieu depuis le XVIIIe siècle, c'est que les discours différents sont peu à peu sortis de la littérature. Le premier discours qui est sorti de la littérature, c'est le discours des sciences de la nature au XVIIIe siècle, pour constituer un autre discours autonome. Et puis au XIXe siècle, une par une, toutes les disciplines sont sorties de la littérature. L'histoire est sortie de la littérature au XIXe siècle, et puis la sociologie, et puis la psychologie. Au début du XXe siècle, qu'est-ce qui restait à la littérature ? Il restait à la littérature l'étude de la subjectivité, l'étude des passions, l'étude des émotions, l'étude des troubles des passions et des émotions. Là aussi, ce discours est largement sorti de la littérature pour se retrouver dans la psychologie ou dans la psychanalyse. Et qu'est-ce qui restait à la littérature ? Qu'est-ce qui est resté dans la littérature au XXe siècle ? Il lui restait plus grand-chose, il lui restait à peu près plus qu'elle-même, c'est-à-dire la fiction. Elle s'était en somme beaucoup rétrécie, et c'est aussi une des raisons de la difficulté qui peut être la sienne. Elle a un domaine de juridiction qui est devenu beaucoup plus petit. Et puis il y a ce thème qui s'est imposé au cours du XXe siècle de deux cultures. Deux cultures, une culture scientifique et une culture littéraire. Sans doute que c'est même beaucoup plus ancien, mais il faut se demander, c'est beaucoup plus ancien. Ça date du XIXe siècle, ça aussi. Il faut se demander à quoi est-ce que ça correspond, cette idée des deux cultures. Est-ce que vraiment il y a deux cultures, une culture scientifique et une culture littéraire? Longtemps, il n'y a pas eu d'opposition entre ces deux cultures, hein, mathématiques et littéraires. Dans l'école, en France, elle est apparue vers le milieu du XIXe siècle. On a commencé à parler de bifurcation. Il fallait choisir. Soit on était scientifique, soit on était littéraire. Et peu à peu, cette barrière s'est largement consolidée. Et d'une certaine façon, nous en sommes tous victimes aujourd'hui de cette nécessité de choisir. Vous, comme tout le monde, puisque vous devez trouver votre place dans cette grande fracture qui a été établie fortement en ce siècle. Il ne faut pas oublier que c'est un phénomène relativement récent et relativement artificiel. Il n'affectait pas du tout par exemple, des écrivains comme Zola ou Baudelaire, qui pensaient encore qu'il y avait une très forte solidarité entre culture scientifique et culture littéraire. Vous voyez que là aussi, c'est une mise en cause de la littérature. Si vous vous dites scientifique, vous pouvez penser que c'est une culture qui n'a plus besoin de la connaissance littéraire. Alors je voudrais en venir à différentes manières de justifier la connaissance littéraire aujourd'hui, en nous demandant comment elle peut servir, quel est son pouvoir. Il y a une très vieille idée, qui est l'idée humaniste, qui voudrait nous dire que, avec la littérature, on vit mieux. La lecture, l'expérience que donne la littérature, permet de vivre mieux, d'avoir une vie meilleure. Et je voudrais rappeler quelques-unes des explications familières de ce pouvoir de la littérature de nous donner une vie meilleure. La première explication, c'est celle de la tradition, hein, depuis l'Antiquité. C'est celle qu'on pourrait trouver chez Aristote, c'est celle qu'on pourrait trouver chez un certain nombre de poètes latins. C'est l'idée que la littérature nous instruit parce qu'elle nous plaît. Elle nous instruit parce qu'elle nous d'une certaine façon distrait et amuse. Vous avez lu très évidemment, lorsque vous, à travers votre scolarité, vous avez lu des fables de La Fontaine. C'était le principe des fables de La Fontaine. La Fontaine écrivait : les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être, Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et compter pour compter me semble peu d'affaires. La Fontaine résume ici toute une tradition qui vient de la plus haute antiquité. C'est l'idée que le conte, la fable, c'est une feinte, comme il dit. C'est une sorte de feinte qui vise à instruire en plaisant, autrement dit, à enseigner ce qu'il appelle une morale. Une morale nue apporte l'ennui, le conte fait passer le précepte avec lui. Pour nous enseigner la morale, c'est-à-dire comment vivre, hein. La morale, ça ne veut pas dire des interdits, ça veut dire comment vivre. Pour nous enseigner comment vivre, il y a deux manières. Il y a toujours eu deux manières. La règle et l'exemple. On peut vous donner des règles de vie et on peut vous donner des exemples de vie. L'ennui avec les règles, dit La Fontaine, c'est que les règles, on ne les suit jamais. Si on vous donne des règles, vous ne les suivez pas. Parce que les règles sont abstraites. Et donc, les règles, on les oublie, on ne les applique pas. Tandis que les exemples, eh bien, les exemples, eux, sont frappants, sont imagés. Les exemples, on s'en souvient. C'est donc une très vieille idée de l'Antiquité qu'il y a deux types d'enseignement de la vie. C'est ça l'enseignement moral, l'enseignement de la vie. Deux types d'enseignement de la vie, l'enseignement par les règles et l'enseignement par les histoires. Dans la Bible, il y a le décalogue. Décalogue, ce sont des règles. Et puis, il y a les paraboles. C'est la même opposition que je suis en train d'évoquer. Et on la trouve dans toutes les religions, on la trouve dans toutes les morales, l'opposition de la règle et de l'exemple. Eh bien, l'une des justifications les plus anciennes de la littérature, et il faut se demander si elle est toujours valable, la littérature, ce sont des contes, ce sont des fictions qui nous apprennent à vivre parce qu'elles sont plus efficaces que ne le sont les règles. Par exemple, au début de Manon Lescaut, je ne sais pas si vous avez lu Manon Lescaut, peut-être personne d'entre vous n'a lu Manon Lescaut. Comment ? Oui ? Qui a lu Manon Lescaut ? Bon, vous avez lu Manon Lescaut. Je tombe bien. Bon, eh bien, par exemple, Manon Lescaut, toute l'histoire de Manon Lescaut, c'est une histoire d'amour, c'est l'histoire de la passion, c'est l'histoire de ce qu'est un amour fou, et c'est une histoire qui, évidemment, vise une morale. Et l'auteur écrit au début de Manon Lescaut, dans l'avant-propos, c'est là où souvent l'auteur dit ce qu'il a voulu faire. Chut, chut. Outre le plaisir d'une lecture agréable, vous avez lu Manon Lescaut, c'est d'une lecture agréable, j'espère que vous serez d'accord. C'est d'une lecture agréable, mais ça ne s'arrête pas là. Outre le plaisir d'une lecture agréable, on y trouvera peu d'événements qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs. Et c'est rendre, à mon avis, un service considérable au public que de l'instruire en l'amusant. Oui, on a toujours cette idée. La littérature instruit en amusant. Et l'auteur, l'abbé Prévost, continue en disant « On ne peut réfléchir sur les préceptes de la morale sans être étonné de les voir tout à la fois estimés et négligés. On connaît les règles, mais on ne les applique pas dans la vie. Et l'on se demande la raison de cette bizarrerie du cœur humain qui lui fait goûter des idées de bien et de perfection dont il s'éloigne dans la pratique. Donc, on sait où est le bien, mais on ne va pas dans cette direction. L'expérience et la littérature, eh bien, c'est de l'expérience de remplacement. Selon toute cette tradition, la littérature, c'est de l'expérience de remplacement. Ça se substitue à l'expérience. Et ça permet de guider sa conduite mieux que les règles. Il ne reste, dit-il, donc que l'exemple qui puisse servir de règle à quantité de personnes dans l'exercice de la vertu. Bref, je dirais que c'est la réponse la plus classique. La littérature, ce sont des histoires dont on se souvient parce que cela remplace l'expérience. On ne peut pas avoir toutes ces expériences. Autrement dit, quand on vit, on pense à ces expériences qu'on a vécues dans les livres par procuration, en suivant les aventures ou les mésaventures des héros. Est-ce que cette réponse est toujours valable ? Dans une certaine mesure, probablement, oui. Génération après génération, on apprend la vie dans les histoires qu'on nous raconte, dans les livres, dans les films, dans les expériences qu'on vit par procuration. La deuxième définition du pouvoir de la littérature que je voudrais évoquer, c'est celle qui est venue avec la modernité, avec les Lumières, avec le XVIIIe siècle. Et celle-là, elle nous dit que la littérature, c'est un remède contre tout ce qu'on peut rencontrer dans le monde. C'est aussi ce que diront les romantiques. La littérature nous libère. La littérature, c'est une libération. C'est ce que disent les Lumières en défendant la littérature comme un instrument de justice, de tolérance. C'est pourquoi dans l'école, en France, à partir de la Troisième République, on a mis un tel accent sur le XVIIIe siècle, sur les Lumières. On a enseigné Voltaire et Rousseau. Vous avez lu, j'imagine, Candide et des choses de cette sorte. Vous avez lu Voltaire et Rousseau parce que c'est vraiment les articles de base de l'école en France depuis la Troisième République, avec cette idée que cette littérature-là a un pouvoir, et ce pouvoir, c'est de nous libérer de l'aliénation. Bien entendu, au XVIIIe siècle, pour Voltaire et pour Rousseau, et lorsqu'ils ont été utilisés par la suite, cette aliénation, c'était celle de la religion. Voltaire et Rousseau étaient utilisés comme des instruments pour cette libération-là, contre une littérature marquée par la religion et par la monarchie. Mais cette définition de la littérature, elle a été poursuivie. Vous la trouveriez chez de nombreux penseurs du XXe siècle. C'est par exemple celle que Jean-Paul Sartre soutenait, ou qu'Albert Camus soutenait. C'est celle qu'on trouve chez les existentialistes au milieu du XXe siècle. C'est l'idée que la littérature permet d'échapper, c'est ce que Sartre disait, aux forces d'aliénation ou d'oppression. Sartre a beaucoup soutenu cette idée. Il disait « La littérature ne peut pas grand-chose pour un enfant qui a faim. La littérature ne peut pas grand-chose pour empêcher un enfant de mourir. Mais ce qu'elle peut, la littérature, c'est libérer des forces d'aliénation et d'oppression. » Alors, est-ce que cette leçon-là est toujours valable? Est-ce que la littérature a toujours ce pouvoir? Est-ce que la littérature est toujours un contre-pouvoir, une force d'opposition dans le monde? On peut penser qu'elle l'est toujours et qu'un certain nombre des révolutions qui ont lieu en ce moment sous nos yeux, ces révolutions qui ont lieu sous nos yeux dans différentes parties du monde, elles sont aussi liées à une diffusion de la littérature par l'éducation. Il est très difficile de maintenir des dictatures là où les gens lisent. Et les dictateurs le savent. Beaucoup des révolutions qui ont eu lieu dans le monde sont liées à la montée de l'éducation, de la scolarité et de la lecture. Il ne s'agit donc pas de l'oublier. La littérature reste une force de liberté. Les romantiques disaient un peu plus. Ils disaient en plus que dans un monde qui devenait de plus en plus compliqué, où notre expérience du monde était de plus en plus éclatée, et c'est évidemment encore le cas aujourd'hui, où nous vivons, comme je le disais il y a un moment, dans une très très grande dispersion de multi-activités, de d'émiettement de notre personnalité. Les romantiques disaient que la littérature avait le pouvoir d'un remède qui donnait une unité au sujet dans un monde dispersé. C'est à travers l'expérience littéraire que on pouvait avoir une conscience unifiée et cohérente de soi-même. Si les romantiques le disaient dans un monde moderne qu'ils vivaient comme particulièrement troublant, on peut aussi penser que cette raison est encore plus valable pour nous aujourd'hui. Je ne dis pas que la littérature est le seul moyen, mais la littérature est un moyen de reprendre possession de soi-même en donnant une unité à une expérience du monde qui est pour nous très éclatée. Alors bien sûr, si la littérature est un remède, la littérature est un remède à l'oppression, disent les Lumières. La littérature est un remède à la dispersion de la subjectivité, à l'éclatement de la personne, selon les romantiques. Si la littérature est un remède, elle peut être aussi un poison. Tous les médicaments sont dangereux. Si la littérature a cette vertu du médicament contre la maladie sociale, contre la maladie individuelle, la littérature, elle peut être aussi un poison. Les remèdes sont aussi des poisons. Et vous connaissez l'une des grandes malades, j'imagine, de la littérature, vous ne lui avez pas échappé, ou elle ne vous a pas échappé, la plus grande malade de la littérature, c'est qui? Ceux qui ont lu Manon Lescaut ont sans doute aussi lu Madame Bovary. Chut, chut, chut. Le livre, disent les jeunes gens, le plus ennuyeux de toute la littérature française, parce que c'est le seul qu'on les a obligés de lire jusqu'au bout. Mais c'est un livre passionnant, parce que c'est un livre qui porte justement sur la maladie que peut donner la littérature. Cette pauvre Madame Bovary a trop lu de romans, et c'est ça qui l'a rendue malade. Et c'est ça qui l'a menée à la mort, à la fin du livre. C'est le livre le plus connu, mais il y a une foule de livres qui parlent de la littérature, de la lecture comme maladie. Au XIXe siècle, on appelle ça l'intoxication littéraire. Je pense que la plupart de vous sont indemnes de cette maladie de l'intoxication littéraire. Mais on ne peut pas se cacher qu'elle existe. Vous avez peut-être entendu parler de Don Quichotte, certains d'entre vous. Don Quichotte, voilà un autre malade de la littérature. Hein ? Il a lu des romans de chevalerie et il les a pris pour la vérité. Donc vous voyez, je dis, la lecture a une faculté de libération, une faculté de réunion de la subjectivité, de connaissance de soi. Mais la littérature, elle peut être aussi dangereuse, comme elle l'est pour Don Quichotte, comme pour Madame Bovary, et pour beaucoup d'autres qui, au XIXe siècle, parce qu'on a souvent associé cette maladie de la littérature à la scolarité, de plus en plus développée, eh bien, la littérature, elle peut aussi être dangereuse. Troisième, donc première explication du pouvoir de la littérature, j'ai dit l'explication classique, elle instruit en plaisant. Deuxième explication, l'explication des Lumières ou romantique. Elle guérit les maux, mais comme tout médicament, elle peut aussi rendre malade si on en abuse. Troisième explication du pouvoir de la littérature, je dirais que c'est celle que vous avez trouvée chez les modernes, que vous devez connaître un petit peu les uns et les autres. Chez les modernes, la littérature, la poésie, le roman, a le pouvoir de découvrir des vérités qu'on ne trouverait pas autrement. Pourquoi ? Ben, parce que le langage, il nous faut la poésie pour surmonter les défauts du langage. Non ? Personne d'entre vous, même ceux qui sont en L, n'a lu Mallarmé ? Vous avez lu Mallarmé ? Ben voilà l'une des idées de Mallarmé ou de Valéry au XXe. Et seule la poésie peut surmonter les défauts du langage. Le poète a de dévoiler une vérité qui est ordinaire, ne découvrirait pas. Alors là aussi, on peut rattacher cela sans doute à quelque chose de très très ancien, qu'il y avait déjà chez les Grecs, hein, pour qui il y avait une profonde analogie entre le poète, le prophète, c'est plus ou moins le même homme pour les Grecs, et le poète découvre une vérité qui est voilé dans le langage. Le poète est donc d'une certaine façon suivant l'expression d'un anthropologue de la Grèce, c'est un maître de vérité. Il aborde une vérité que le langage ordinaire ne peut pas connaître, et la poésie est donc une sorte de comment dire, philosophie supérieure qui, ou d'anti-philosophie, si la philosophie c'est une pensée rationnelle, limitée par sa rationalité, eh bien la poésie permettra d'accéder à des vérités que la pensée analytique, la pensée rationnelle ne pourrait pas connaître. Je crois que ce sont en gros les trois grandes explications qu'on peut donner du pouvoir de la littérature. Et vous pouvez vous demander si ces trois pouvoirs, hein, que j'ai rattachés à la tradition classique, hein, aux Lumières, au romantisme, ou encore à la modernité, vous pouvez vous demander si ces pouvoirs sont encore valables, ont encore du poids aujourd'hui. Et il me semble qu'on peut maintenir qu'ils ont toujours de la force et qu'il y a dans la littérature un certain nombre de facultés qui restent importantes aujourd'hui. On parle beaucoup aujourd'hui, comment dire ? On parle beaucoup aujourd'hui, à peu près dans tous les domaines, du rapport entre le récit et l'identité. L'identité, avoir une identité, autrement dit, être quelqu'un, être capable d'avoir des rapports avec les autres, cela suppose d'être en mesure de raconter une histoire sur soi, de pouvoir être le sujet de son histoire. Et c'est une conception de la subjectivité qui semble dominer à peu près dans tous les domaines aujourd'hui. Si vous n'êtes pas en mesure de faire un récit continu et cohérent de vous-même, alors vous avez du mal à vivre avec vous et avec les autres. Être capable de faire un récit continu et cohérent de soi-même, eh bien cela exige d'avoir une certaine maîtrise du récit, une certaine maîtrise de la narration. Et qu'est-ce qui donne cette maîtrise de la narration? Eh bien, encore une fois, c'est l'expérience. La littérature, c'est l'expérience. Je ne dis pas que ce soit la seule expérience du récit. Nous avons bien d'autres expériences du récit. Depuis notre petite enfance jusqu'au film qui contribue beaucoup à cette faculté de récit, bien sûr jusqu'aux jeux vidéo que vous pouvez pratiquer aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut maintenir l'importance de cette faculté de raconter, et notamment de se raconter, pour comprendre ce que c'est que vivre bien avec soi-même et avec les autres. Alors, je ne dis pas, encore une fois, que la littérature soit le seul moyen de nous faire accéder à cette faculté narrative, si vous voulez, à cette capacité à raconter, mais je dis qu'elle reste un des moyens les plus forts. Et peut-être que c'est le dernier point que je voudrais faire. Pourquoi est-elle un moyen si fort? Pourquoi est-ce que la littérature, lorsque vous lisez un roman, lorsque vous lisez un poème, pourquoi reste-t-elle un moyen si fort de... un moyen aussi fort pour vous donner cette faculté de raconter, d'unifier votre expérience, de vivre avec les autres, de connaître les autres? Eh bien, ce sont deux points que j'ai brièvement esquissés à différents moments de mon propos. Le premier, c'est que avec la littérature, avec le livre, lorsque vous lisez un roman, j'ai dit, il y a un moment, vous êtes maître du temps. La lecture, c'est d'une certaine façon la maîtrise du temps. Vous pouvez vous arrêter autant de temps que vous voulez à chaque page, à chaque ligne. Vous pouvez sauter 100 pages, sauter 300 pages. Et aller voir directement les dernières pages du livre. Nous faisons tous cela. Nous ne lisons pas un livre de manière linéaire, de la première à la dernière ligne. Nous le lisons en faisant des zigzags dans le livre. Certains d'entre nous préfèrent connaître l'identité de l'assassin avant de lire le livre. Et ont plus de plaisir à le lire s'ils connaissent la solution du problème. D'autres, au contraire, ne veulent absolument pas savoir qui est l'assassin et préfèrent lire le livre sans en connaître le dénouement. Nous sommes maîtres du temps lorsque nous lisons. Et encore une fois, je le disais, ce qui peut faire peur dans un livre, mais aussi ce qui peut donner le plus grand plaisir, c'est cette maîtrise du temps. Et je le disais aussi il y a un moment, c'est aussi une maîtrise de l'espace. Un livre, c'est un terrain, c'est un domaine à conquérir. Et alors l'autre aspect, mais qui va de pair, et qui me semble maintenir une grande force de la littérature, c'est l'absence d'image. C'est l'absence d'image par opposition notamment au film et dans un monde qui est de plus en plus dominé par les images. Il n'y a pas d'image, ça veut dire que c'est à nous de les imaginer. C'est à nous de les faire. L'un des grands pouvoirs de la littérature reste le fait qu'elle n'a pas d'image et que c'est à nous de les produire. Et cet impact de la littérature que je disais il y a un moment, cet impact de la littérature qui fait qu'elle nous fournit des exemples qui se substituent à l'expérience, c'est que dans ces exemples, nous mettons nous-mêmes les images. Ceux qui ont lu Manon Lescaut se souviennent peut-être, puisque vous avez lu ce roman, vous savez que Manon, qui est l'un des personnages les plus séduisants de toute la littérature française, n'est jamais décrite. Elle n'est jamais décrite, et l'abbé Prévost dit seulement de Manon Lescaut qu'elle a le visage de l'amour même. Elle a le visage de l'amour même, si bien que chacun peut lui donner les traits qu'il souhaite. Chacun se la représente à sa manière. Et c'est aussi pourquoi, lorsque nous voyons un roman qui est transposé au cinéma, nous sommes si souvent déconcertés ou même déçus, parce que cela ne correspond pas du tout aux images beaucoup plus belles que nous nous étions faites. Il y a donc au moins ces deux éléments qui restent des facteurs très importants du pouvoir de la littérature, la maîtrise du temps et la maîtrise des images que vous n'avez pas avec les autres médias, même si les autres médias sont tout à fait susceptibles de nous initier eux aussi à cette indispensable faculté de récit pour contrôler son existence dans le monde et peut-être pour vivre mieux. Je crois que je vais arrêter là et répondre à des questions si vous en avez.
Alors, y a-t-il des questions ?
Bonjour. J'aimerais savoir si vous pensez que en fait, la littérature électronique n'est pas une bonne initiation à la littérature. Est-ce que ça peut être pratique, par exemple, pour des livres qui sont tombés dans le domaine public ?
La littérature électronique. Alors, c'est évidemment une très grande et très importante question que celle de la littérature électronique. Je ne sais pas exactement ce que vous appelez littérature électronique, mais je vous ai dit, lorsque je parlais de la lecture, je crois que la lecture, c'est une question très, très importante. Je vous ai dit que les modalités de la lecture ont profondément changé dans la période récente. Pour nous tous, moi-même, je lis beaucoup plus sur écran. Chaque année, je lis un peu plus sur écran. Chaque mois, je lis un peu plus sur écran. Ça veut dire que je lis un peu moins sur papier. Or, sur écran et sur papier, nous ne lisons pas de la même façon. Et j'ai insisté, il y a un moment, je le répète un peu, la lecture sur écran est une lecture discontinue, est une lecture beaucoup plus dispersée que la lecture sur papier. Elle a des choses très bien. Mais lorsque je lis un livre sur écran, eh bien, je suis tout le temps tenté d'aller à autre chose, de cliquer sur un mot que je ne connais pas pour le comprendre. Je suis tenté de cliquer sur une notion qui ne m'est pas claire, un détail qui ne m'est pas clair. Autrement dit, c'est une lecture beaucoup plus, tout simplement hypertextuel, où je vais dans des directions multiples à tout moment. Le résultat est probablement, mais tout ça reste très hypothétique, le résultat est probablement que ces deux facultés, ces deux pouvoirs de la lecture littéraire que j'évoquais, la maîtrise du temps et la maîtrise des images, sont un peu émoussés. Parce que, par exemple, je vais aller chercher les images. Lorsque je lis sur écran, je vais aller chercher des images qui vont se substituer aux images de mon imaginaire. Alors, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que nous n'avons pas encore vu grand-chose de la lecture électronique, parce que nous n'avons pas encore de livres qui ont été écrits pour le monde numérique. Nous n'avons pas encore de littérature écrite pour l'univers numérique. Vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait des romans qui avaient été écrits sous forme de SMS. Ça existe. Notamment au Japon, on a fait des romans sous forme de SMS. C'est un embryon de littérature électronique, mais ce n'est pas encore grand-chose. Nous n'avons pas encore vu de romans, si vous voulez, multimédia, qui sont faits directement pour une tablette électronique et où nous avons à la fois du texte, de l'image, de la musique. Pour le moment, ce que vous connaissez du livre électronique, ce sont des livres traditionnels qui ont été transposés sur le... qui ont été numérisés et auxquels vous pouvez accéder de manière électronique. Mais ce ne sont pas encore des créations numériques. Alors, quand nous aurons affaire à des créations numériques, eh bien, ce sera sans doute un grand saut, une grande différence, et je pense que ce sera vraiment un autre mode de lecture que les livres numériques. En anglais, on en parle sous le nom de VOOCs, hein, comme books, avec un B, VOOCs avec un V, pour dire que ce sera des livres qui auront une dimension visuelle. Hein. Mais on n'a encore rien vu de très intéressant. Autrement dit, ce que vous faites aujourd'hui, c'est principalement lire sur écran des livres traditionnels numérisés. C'est très bien. Ce n'est pas encore une révolution.
Bonjour.
Oui, allez-y.
Donc, je voudrais vous demander, est-ce que les mangas ou les bandes dessinées, ça fait partie de la littérature ?
Écoutez, je crois que ce qu'on peut vous répondre, c'est pour chacun d'entre nous, ce qu'il lit, c'est ça la littérature. Comme je vous l'ai rappelé, juste à l'âge classique, au XVIIIe siècle, la littérature, c'était tout ce qui était écrit. Tout ce qui était écrit, c'était de la littérature. Peu à peu, il y a un certain nombre de discours qui sont sortis de la littérature. Il y a d'autres discours qui sont entrer dans la littérature. Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre des pouvoirs de la littérature ne sont pas propres à la littérature, mais qu'on les retrouve dans toutes les formes de récits. Qu'il s'agisse du récit au cinéma, qu'il s'agisse du récit dans les bandes dessinées, qu'il s'agisse du récit dans les mangas, qu'il s'agisse du récit dans les jeux vidéo. Il y a un certain nombre de pouvoirs de la littérature qui sont évidemment communs. Mais j'ai aussi essayé de vous dire qu'il y avait un certain nombre de pouvoirs qui étaient particuliers à la littérature ou plus développés avec certaines formes de littérature, et que ces pouvoirs étaient liés notamment à l'absence d'image. Donc, dans les mangas ou dans la bande dessinée, où il y a des images, eh bien, vous êtes beaucoup plus dépendant de ces images. Et je pense que ça n'exploite pas toutes ces facultés qui pourraient être développées chez le lecteur. Mais bien entendu, ça fait partie de la littérature. Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition exclusive de la littérature. Qu'est-ce que vous lisez ? Moi, c'est moi qui ai des questions. Oui ? Qui veut parler d'un livre qu'il a lu récemment et de ce qu'il ou elle a appris ? C'est Charles de Gaulle en terminale. Elle, c'est ça ? Oui, qui a suscité une petit débat l'an dernier quand ça a été mis au programme. Oui, ça vous a plu ? Comment ?
Un peu lourd.
C'est un peu lourd parce que voilà un ouvrage qui suppose de votre part pas mal de savoir historique. Pour le comprendre, hein, c'est le troisième volume des Mémoires du général de Gaulle que vous avez au programme. Ça suppose évidemment une bonne connaissance du contexte. Ce n'est pas un livre que vous pouvez lire en ignorant le contexte historique, en ignorant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire politique de la libération en France. Donc, il y a toujours deux manières d'aborder un livre. Il y a toujours deux manières de lire, à partir de soi ou à partir du livre. En partant de son propre moment, de son propre temps, de son propre lieu, et en essayant de comprendre l'autre, dans le temps, dans l'espace, le moment où ce livre a été produit. Et dans le cas d'un livre comme Les Mémoires du général de Gaulle, en partant de vous-même et de vos connaissances dans l'espace et le temps, aujourd'hui, ici et maintenant, ce sera manifestement très insuffisant. Donc c'est un livre qui suppose une lecture historique, une lecture contextuelle. Si vous aviez affaire à... Je suppose qu'il n'y a pas que ça au programme, et que les autres livres se prêtent à d'autres types de lectures. Quelles sont les autres œuvres au programme? Comment?
Beckett.
Beckett, ben oui. Ben Beckett, c'est un tout autre type de lecture. Beckett, vous partez de vous pour le lire. Vous n'avez pas besoin pour lire Beckett de beaucoup d'informations historiques, de beaucoup d'informations hors du texte lui-même pour voir les problèmes de la subjectivité, de l'humanité qui y sont traités. En ce sens, vous avez deux œuvres à votre programme qui sont tout à fait complémentaires. Une que vous pouvez lire en partant de vous, et l'autre pour laquelle le contexte vous est absolument indispensable. En ce sens, la complémentarité fait que c'est un programme tout à fait défendable, puisqu'il fait vraiment appel à deux types de lectures radicalement différents. Autre... Personne ne veut parler d'un livre lu récemment ? Comment ?
Je conclue que vous êtes tous de grands lecteurs
et que mes arguments vous ont totalement convaincu et que vous allez aller aussitôt lire pour toute la soirée. Merci.